Surtout quand c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, avec le réseau paysan du Finistère, le CIVAM, qui s'intéresse aussi aux élections municipales.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui remplit vos oreilles et rassasie vos cerveaux avec de vrais morceaux de Finistère dedans. Et surtout quand on retrouve l'émission mensuelle qu'on réalise avec le réseau paysan, le CIVAM du Finistère, qui est un réseau militant. Vous l'avez sans doute compris depuis toutes ces années d'émissions partagées. Au CIVAM, on se mobilise pour une agriculture paysanne, respectueuse des gens, des autres vivants, de la terre. On s'intéresse à une agriculture à taille humaine qui nourrit les corps et pas les marchés internationaux ou la haute finance. Au CIVAM, on est souvent à l'échelle locale et ça tombe bien car des élections approchent à grands pas, des municipales. C'est le 15 mars et le 22 mars en cas de second tour. La démocratie locale peut aussi se saisir de grandes questions comme celle de notre modèle agricole et de notre alimentation. Ce sont des grandes questions. Justement, le CIVAM profite de l'occasion pour mettre quelques débats sur la table. Il y a même eu une soirée débat à Plomelin le 16 décembre dernier en présence de plusieurs candidates et candidats aux prochaines élections. Agir sur l'agriculture et l'alimentation dans nos communes, c'était le thème de cette soirée et c'est celui de cette émission. Et avec nous pour en discuter, il y a une coprésidente du CIVAM du Finistère, Anne de Salet, qui est maraîchère à Plomelin, et une des salariées, Violette Divet. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors dans quel contexte, à part le fait qu'il y ait des élections qui approchent, pourquoi est-ce que le CIVAM du Finistère a voulu lancer cette démarche? Je ne sais pas si vous le faites à chaque élection d'ailleurs.
Je ne me souviens pas, j'avoue, il y a 5 ans, je ne me souviens pas si on avait travaillé en direction des futurs élus. En tout cas, cette année, on a souhaité le faire. On était déjà dans une dynamique où on travaillait plus que... Enfin, on avait relancé un cycle de travail vraiment sur l'alimentation. Du coup, là, nous avions apporté une étude l'année dernière au National sur l'injuste prix de l'alimentation. Et dans cette étude, il y avait... Après les constats, il y avait toute une série de déclinaisons sur qu'est-ce qu'on fait, à quelle échelle, et dont certaines, donc à l'échelle locale, qu'est-ce qui peut être fait. Et donc, c'est assez logiquement que les municipales venant un an après, on s'est dit il faut qu'on embraye sur porter cette parole auprès de nos élus locaux au plus près des territoires.
Et puis par ailleurs, il y a un contexte qui n'est pas forcément très propice pour l'agriculture, on va dire, non conventionnelle en ce moment en plus. Enfin, il y a des reculs concrètement, c'est ça hein. On peut le dire.
Oui, en plus, on est dans un contexte assez déprimant par rapport au modèle agricole que nous, on préconise.
Et alors, vous avez mené cette conférence le 16 décembre dans le Finistère, enfin c'était à Plomelin d'ailleurs. Quelle a été justement la réponse des élus? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette conférence?
Alors en fait, conférence, c'est un bien grand mot. Le but, c'était, c'était vraiment de mettre des gens autour de la table. Nous, on leur présentait une petite partie de l'étude, notre support un peu pour lancer les discussions. Et après, l'idée, c'était vraiment de faire échanger entre eux les futurs élus ou les actuels élus en place sur qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qui a déjà été tenté. Sur toujours des principes d'éducation populaire comme nous on aime bien, le fait qu'ils puissent interagir entre eux. Nous on avait quand même notre petite liste de recommandations sous le coude, mais on l'a mis en exergue qu'un peu à la fin pour alimenter les débats, mais c'était vraiment l'échange entre pairs qu'on souhaitait, et ça a bien marché. Il y a eu une 60aine de personnes qui se sont mobilisées et qui sont venues, dont beaucoup de futurs élus.
Tous les bords, vous savez pas.
Oui, de tous les bords.
C'est important aussi.
Oui. Exactement, parce que nous, on a toujours. C'est souvent des gens un petit peu acquis à notre cause qu'on va mobiliser. Et là, entrer par cette matière de qu'est-ce qui peut être fait à l'échelon municipal, ça peut être transpartisan.
Et qu'est-ce qu'ils disaient les personnes présentes là? Qu'est-ce qu'ils attendaient en particulier? Ils avaient des visions ou c'était juste ils venaient prendre des infos?
Oui, ils venaient prendre des infos. Ça a vite parlé de la restauration collective, parce que c'est vrai que les élus à l'échelon municipal tout ce qui touche l'agriculture, le premier réflexe qu'ils vont avoir, le plus simple, je pense, d'accès quand on est élu, c'est de bosser d'abord sur l'approvisionnement des restaurations scolaires et donc la Restoco, ce qui est très bien pour commencer. Mais voilà, l'idée, c'était de montrer qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites sur l'agriculture avec un grand A et pas seulement le bout de chaîne.
Oui. Alors justement, venons-en aux compétences. Enfin, les compétences municipales, bon, on a l'impression qu'elles se réduisent de plus en plus. Alors, si on inclut les Comcom, il y a un peu plus, sans doute, mais c'est quoi les grandes compétences qui ont un rapport plus ou moins éloigné avec l'agriculture et l'alimentation qui concernent une municipalité? Donc, il y a la cantine, enfin, la restauration scolaire, et puis quoi, alors, Violette?
Eh ben, il y a une des premières compétences auxquelles on pense, c'est la question de la régulation du foncier.
Les terres.
Les communes ont quand même la main sur l'urbanisme en coopération aussi avec l'intercommunalité. Hein, de toute façon, c'est les mêmes acteurs. On n'oublie pas quand même que les communes sont l'intercommunalité.
Bien sûr, ouais. Et donc, ça veut dire, c'est parce que c'est eux qui font le plan local d'urbanisme, en fait, c'est ça.
Oui, ouais,
qui disent qu'est-ce qui sera terre agricole, qu'est-ce qui sera aménageable ou pas.
Oui, tout à fait. Là, c'est vrai que quand même ces dernières années, on a vu un des progrès par rapport à cette question où c'est quand même de plus en plus difficile de transformer, de changer de vocation en fait les terres et pour que ça passe à urbaniser. Cependant, on voit bien quand même qu'il y a toujours un peu de négociation, toujours un peu de grignotage et les terres agricoles continuent de disparaître, parfois sur des décisions qui ont été prises aussi il y a 10 ans. Quoi.
Ouais, c'est ça. Alors que les communes, on commence à avoir conscience de ça, vraiment, qu'il faut garder les terres agricoles de la commune?
Oui, je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'élus qui sont sensibilisés à ça. Après, on ne va pas se mentir, c'est aussi une obligation réglementaire. Voilà, c'est la loi aussi qui le dit, qui pose des contraintes assez fortes là-dessus. Voilà, les objectifs de zéro artificialisation nette. Mais après, chaque commune a quand même des enjeux différents. Oui, après, sur le niveau de sensibilité de chaque élu, c'est difficile de le dire tellement c'est varié, mais effectivement quand même finalement nous aussi en organisant cette soirée c'était juste de dire genre en fait l'agriculture est un sujet au niveau de la commune.
C'est ça.
Et il y a de plus en plus de... En fait, on constate aussi un éloignement en fait, des élus et de l'agriculture ou des agriculteurs.
Oui, parce qu'il y a encore des agriculteurs qui sont élus,
oui.
Quand même.
Il y en a encore quand même beaucoup, notamment dans les communes rurales, mais c'est beaucoup moins le cas que par le passé. Et du coup, ça creuse aussi un peu et ça peut amener une forme d'incompréhension, puisque du coup, les élus ne viennent plus ou beaucoup moins du milieu agricole. Et du coup, comment ne pas oublier cet enjeu qui est primordial pour une commune, quoi.
Donc le foncier, ok, sa compétence vraiment majeure, quoi d'autre encore?
On a passé la restauration collective.
Alors la restauration collective, ça veut dire que le maire, en fait, c'est lui qui ou elle qui organise vraiment la cantine, enfin, c'est ça, enfin, quand il y en a une, hein, c'est pas obligatoire, je crois, d'avoir une
restauration. Oui, qui choisit par quels moyens ils vont s'approvisionner, s'ils passent plutôt par des centrales, s'ils essayent d'inclure des producteurs locaux.
Ça, ils peuvent décider de ça.
Ça peut être décidé, alors il y a deux échelons, il y a l'équipe municipale et sa motivation en la matière, et il y a aussi l'équipe de restauration, le cuisinier et la cuisinière. Il faut que les deux soient motivés pour que ça fonctionne. On a observé que quand il y a un blocage d'un ou des deux côtés, et puis aussi, il faut qu'il y ait les moyens pratiques pour le faire. Il faut qu'il y ait par exemple une légumerie, la main d'œuvre pour découper. Quand il y a ces trois choses qui sont alignées, ça peut fonctionner. Mais s'il y a un des trois qui bloque, on va plus facilement passer par des centrales d'achat, ce qui est plus simple en fait pour tout le monde.
Avec des légumes tout épluchés qui viennent de loin, c'est ça en gros quoi.
Ça peut, ouais.
Le principe.
Ça peut. Et on peut avoir des légumes bio dans ces légumes et malgré tout satisfaire la loi Egalim avec ça. Mais on peut s'en contenter ou pas quoi.
Ouais, parce que là aussi il y a la contrainte réglementaire de la loi Egalim qui fait que de toute façon il faut une part de bio de local, c'est ça. C'est quoi la proportion qu'il faut dans les cantines?
Alors là, je saurais plus.
C'est 20% de produits bio et 50% de produits, je ne sais plus l'intitulé, voilà, de qualité, qui rentrent du coup dans un certain cahier des charges. On parle notamment d'autres labels. Mais il faut savoir que du coup, dans la loi Egalim, il n'y a pas de contrainte sur l'approvisionnement local.
Non, c'est ça.
Parce que c'est interdit au niveau du droit européen.
Ça va peut-être changer. Peut-être.
Et espérons.
On verra,
parce qu'effectivement, ça reste quand même cette loi, elle encourage quand même ce lien-là, mais il n'est pas explicite dans la loi.
C'est ça.
Il ne peut pas l'être.
Ouais. Et le fait de passer, d'arriver un petit peu à tricher avec les marchés publics, ça, typiquement, c'est ce qu'on entend dans les discussions entre cuisiniers ou entre élus, des petites combines qui permettent de pas de marquer local dans le marché public, mais de mettre des critères qui font qu'en fait, on va plutôt viser des producteurs locaux. Par exemple, de marquer que la ferme doit pouvoir être visitable par l'école de la commune, bah ça forcément, ça met du local.
On peut mettre ça dans l'appel d'offres.
Oui, il y a plein de petites bidouilles qui existent actuellement pour...
Et puis, il y a un autre système qui n'est pas une bidouille, mais qui est ça existe, certaines communes ont leur jardin. Alors, soit c'est en régie municipale, soit c'est un maraîcher qu'on paye pour cultiver les terres de la commune. Enfin, ça commence à voir le jour, ça. On a le droit d'approvisionner sa cantine avec des légumes de ses terres. Ça, c'est...
Oui, ça existe effectivement à différents échelons, différentes modalités, qui va peut aller jusqu'à la régie municipale, donc le maraîcher qui est fonctionnarisé, je ne sais pas si on dit ça, et donc qui fournit exclusivement à la cantine. Il y a, suivant la taille des collectivités, il y a toutes ces modalités qui existent. Ouais.
Et c'est que pour les fruits et légumes, ou est-ce qu'on peut avoir son poulailler, par exemple? Je pensais à d'autres produits animaux qui demandent peut-être plus de contraintes sanitaires, non?
C'est vrai que j'ai pas ça en tête. Le légume, c'est vraiment la production la plus simple à laquelle on pense en priorité. Mais
ou le fruit avec un verger, éventuellement.
Oui.
Ouais.
Mais la partie animale, j'ai à creuser.
Bon, à creuser, exactement. Est-ce qu'on a d'autres compétences municipales liées à l'agriculture ou à l'alimentation qui serait bon de signaler?
Il y en a plein.
Ah ouais, allons-y, continuons.
Complètement. Ouais. On peut citer, il y a la question de la gestion des déchets qui peuvent aussi faire mine de rien un lien, même si c'est un petit peu plus lointain. Moi, je pense plus immédiatement aussi sur la question de la régulation de la publicité. Donc, ça veut dire ce qu'on appelle, nous, agir sur l'environnement alimentaire. L'environnement alimentaire, c'est tout ce qui constitue, en fait, les références à l'alimentation dans l'espace public, donc soit les lieux d'achat et aussi la publicité.
Publicité affichage, alors, au sens de...
Affichage. D'accord. Les communes peuvent agir sur leur réglementation, du coup, sur la publicité, notamment limiter, par exemple, certains affichages à proximité des écoles.
Pas d'affichage de fast-food à côté des écoles, voilà.
Ils peuvent même réguler, en fait, l'implantation des fast-food. Ils peuvent privilégier certaines zones plutôt que d'autres. Ils peuvent pas complètement empêcher l'implantation d'un commerce parce que la liberté d'entreprendre, mais il y a quand même vraiment de la régulation qui est possible à ce niveau-là. Il y a des recommandations très concrètes et pas si difficiles à appliquer. Un des exemples de régulation de la publicité qui est le plus connu, c'est la ville de Grenoble, qui a quand même fait des... qui a limité drastiquement. Il faut savoir aussi que les communes, elles passent des contrats en fait avec des sociétés qui s'occupent de l'affichage publicitaire et qui peuvent décider de rompre ces contrats, par exemple, ou de faire autre chose.
En effet.
Voilà. Mais c'est aussi, ça rapporte aussi de l'argent, la publicité.
Bien, la publicité, en effet. Quoi d'autre?
Ça, on est vraiment sur les leviers là, d'action directe des communes. Et après, il y a quand même tout un champ d'action des communes qui vise aussi à soutenir ceux qui agissent déjà pour l'agriculture et l'alimentation. Et là, on va peut-être prêcher un peu pour notre paroisse.
Bah oui.
Effectivement, nous, on coopère avec des collectivités.
C'est le CIVAM du Finistère.
Tout à fait. Plutôt avec le niveau intercommunal, comme je disais, c'est les mêmes acteurs, les mêmes personnes. Et en fait, il y a déjà plein de structures qui agissent sur ces questions-là. Et il y a vraiment possibilité de coopérer avec ces structures, de mettre tout le monde autour de la table pour agir sur l'installation et la transmission, par exemple.
Ah oui.
D'accord.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'on incite à l'installation ou à la transmission des terres dans sa commune?
Alors nous, par exemple, on travaille depuis longtemps on touche un public de porteurs de projets, donc ça peut être travailler avec une structure comme la nôtre qui fait déjà le travail, parce qu'on a des compétences pour ça. Mais les communes peuvent aussi soutenir les jeunes installés. Il y a certaines communes qui peuvent monter des cellules foncières au sein de leur, par exemple, avec des membres extra-communaux, des citoyens qui sont intéressés, et donc des gens qui vont se réunir dans la commune et puis qui vont essayer d'établir un listing de gens qui souhaitent s'installer, essayer d'avoir une veille sur tout ce qui bouge en foncier pour que ça puisse matcher, en fait, que quand il y a des gens qui veulent s'installer, avoir une connaissance aussi des paysans qui vont bientôt partir en retraite. Ça, les collectivités, des fois, s'en saisissent elles-mêmes. Il arrive que sur certaines petites collectivités, les élus aillent faire du porte-à-porte et aillent voir, discuter avec chacun des... ils ne sont plus très nombreux.
Et souvent, ils se connaissent.
Des paysans, paysannes qui vont partir en retraite, il faut aller les voir longtemps à l'avance pour discuter de ça.
Aider à transmettre, en fait. C'est ça, quoi.
Ouais, pour les aider à progresser, à faire avancer la démarche déjà dans leur tête. Et des fois débloquer des blocages. Ça peut être par une structure comme la nôtre ou ça peut être en direct. Il y a effectivement des tas... il faut que les élus cesse de penser que c'est une affaire strictement privée, l'agriculture, et que ça s'autorégule, parce que on a une disparition des paysans, donc l'installation transmission doit être au cœur des préoccupations de tout le monde, sinon la restauration collective, il n'y aura personne pour la fournir en local.
Exactement, oui. D'autres sujets, d'autres points, des recommandations justement, puisqu'on en arrive là aux recommandations en fait, incidemment.
On en a déjà effectivement évoqué pas mal. Tout ce qu'on dit finalement, c'est que les communes, elles ont vraiment un rôle à jouer sur le fait de faire un bruit de fond. En fait, aussi autour de l'agriculture et l'alimentation. Comme on disait, c'est des. Là, progressivement, en fait, on sent un peu un éloignement quand même des citoyens, citoyennes avec ce sujet. C'est-à-dire que la commune, elle peut animer en fait aussi toute une dynamique, que ce soit en organisant des événements auprès du grand public ou. Et de jouer vraiment ce rôle de mise en lien, de relation entre les différents acteurs. En fait, déjà, nommer par exemple un élu référent sur l'agriculture, c'est un truc tout bête, mais qui peut.
Enfin, même à l'échelon commun. Quoi.
Oui. Ah oui. Oui, tout à fait.
Parce que sinon, il y avait quand même une chose dont on a beaucoup parlé, là, les PAT, plans, alors je ne sais jamais si c'est plan ou projet ou programme, mais alimentaire de territoire, donc à l'échelle intercommunale. Donc là, il y a des élus, il y a au moins un élu ou une élue, non ?
Oui, à l'échelon intercommunal, les projets alimentaires de territoire, oui, sont déjà en place. Ils peuvent se décliner dans les communes. Certaines communes, je pense, aussi en portent en nom propre pour des grandes communes, comme Brest, je sais qu'ils portent un PAT.
Ah oui. Mais c'est pas forcément intercommunal, hein. Ça peut être départemental, le parc d'Armorique en a un, enfin oui. Donc ça quel est votre avis, vous aussi Vam, sur ces PAT, ça a apporté quelque chose quand même à ce niveau-là?
Nous on participe par exemple à certains PAT, on a entamé des collaborations, on a travaillé par exemple avec celui de Quimperlé-Communauté et on a bossé avec eux sur un diagnostic de non-transmissibilité des fermes, faire un état des lieux de si telle ferme ne se transmet pas, qu'est-ce que ça va engendrer sur les paysages, sur l'emploi, concrètement, pour montrer qu'est-ce que ça engendrerait, et du coup, ce qu'il faudrait éviter que les fermes ne se transmettent pas.
Donc le CIVAM du Finistère fait un diagnostic.
Oui.
D'accord, ok. Ouais.
On travaille aussi à Crozon actuellement.
Oui. On a travaillé à faire le lien justement entre les enjeux de solidarité alimentaire et le milieu agricole.
Donc là, pour des personnes en précarité, c'est ça qui ont besoin de... C'est ça ?
Oui, c'est ça. Enfin, on a travaillé avec les assos de solidarité qui sont sur place beaucoup. Enfin, c'est beaucoup avec le Secours Populaire qu'on a été en lien. Et là, l'idée, c'est pareil, de réfléchir ensemble. Quoi. Nous, on fait beaucoup ça, faire réfléchir les gens ensemble. Et puis, on travaille aussi avec la communauté de communes du Cap Cisin. Sur les enjeux d'accès à l'alimentation. On anime un parcours autour de la démocratie alimentaire pour que les citoyens, citoyennes du Cap puissent identifier des solutions qui pourraient être mises en œuvre sur le territoire pour permettre un meilleur accès à une alimentation de qualité. Mmh. Voilà, donc ça c'est en cours, ça a commencé en octobre et ça se termine en mai. Et du coup, c'est vraiment un partenariat très étroit du coup avec la collectivité où on anime ensemble la réflexion pour que la collectivité puisse ensuite s'emparer de ces leviers d'action là.
D'accord. Donc avoir des élus référents, ok. Mmh. Quoi d'autre encore comme recommandation? Vous avez un kit carrément en fait au CIVAM. Vous avez un kit pour les élus, un kit pour le CIVAM, enfin pour les agriculteurs, c'est ça? Enfin pour vos adhérentes et adhérents.
Surtout pour les élus, celui auquel je pense, c'est un kit qui a été édité par notre réseau national, mais qu'on décline dans les territoires. Après on n'est pas les seuls, plusieurs autres assos en ont fait. Le secteur de Liens a fait un kit très pratique aussi pour les élus.
On va en parler très bientôt. Ouais.
Et puis aussi le réseau Brudette, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé.
Alors si, ça fait longtemps qu'on les a pas reçus, mais Brudette, voilà. Alors eux, c'est intéressant. Parce qu'ils vont voir des cas concrets, ils aident. C'est une association de collectivités, c'est ça ? Donc, communauté de communes.
Un échange entre pairs, entre élus, pour ne pas réinventer l'eau chaude à chaque fois, en fait. Pour que chaque élu puisse savoir, ça c'est déjà fait, je vais aller voir.
Et alors, justement, qu'est-ce qu'il y a comme exemple inspirant, localement ou pas d'ailleurs, que le CIVAM aimerait promouvoir ?
Eh bien, il y a un adhérent de Brudette qui est à Poul-d'Ergat.
Ouais.
Qui a porté la création de groupements d'achat.
Alors, ça fonctionne comment ?
J'ai plus les détails.
C'est-à-dire que là, c'est les habitantes et habitants qui achètent ensemble, c'est ça.
Et qui, en grande partie, s'adressent à des producteurs et productrices du coin, Je crois que quasiment exclusivement, mais je ne me souviens plus exactement de la gamme des produits qu'ils font. Ils ont été beaucoup inspirés par le Cabas des Champs, qui est né du coup à Brest, qui existe aussi à Kermaron, à Douarnenez, et qui a été du coup là, la particularité, c'est que vraiment c'est la collectivité qui a pris en main le projet. Et les élus sont hyper impliqués, elles font, concrètement, elles sont bénévoles aussi dans la structure, et elles organisent les groupements, la mairie prête un local, enfin voilà, c'est des choses...
Oui, pour recevoir les produits, quoi, ouais. Ou les productrices ou producteurs éventuellement, quoi.
Ouais, donc la mairie peut être à l'initiative de ce genre de choses, ils peuvent aussi être en soutien d'initiatives citoyennes.
Voilà.
Par exemple, citoyennes ou d'ailleurs des agriculteurs, parce que je pense à Plouguerneau, par exemple, où il y a un magasin de producteurs qui est en création. Il y a possibilité...
Donc là, c'est un magasin producteur de producteurs, mais il est soutenu par la commune.
Ouais, enfin, ils sont en lien, en tout cas, étroit, ils sont parce qu'en fait, ça devient un outil aussi très attractif pour le territoire.
Enfin, c'est bien.
C'est tout bénef pour la mairie d'avoir un outil comme ça, donc les soutenir sur la communication, sur les investissements.
Prêter le local.
Voilà, mettre à disposition un local, c'est une possibilité.
Par exemple, ouais.
Voilà. C'est vrai qu'on peut penser à la commercialisation, je ne l'avais plus en tête, mais les collectivités peuvent vraiment aider, que ce soit de lancement de magasins de producteurs, de marchés de plein vent. Les collectivités peuvent aussi aider à structurer les filières, les outils de transformation, soutenir les abattoirs locaux, les labos de transformation, tous ces échelons-là qui sont indispensables, en fait. Et ça, c'est des choses sur lesquelles les collectivités peuvent agir, parfois.
Oui, l'abattoir, on en a un là, qui sort de terre au fou, et c'est vrai qu'on a fait déjà des émissions là-dessus, mais s'il n'y a pas d'abattoir, il n'y a pas d'éleveur.
Un maillon parmi les autres qui fait vraiment, que le système alimentaire local fonctionne, quoi. Ou pas.
Et puis, est-ce qu'il y a dans le Finistère des communes qui ont acheté de la terre pour faire, soit pour le préserver ou pour carrément faire la foncière, la régie municipale?
Les régies municipales, je ne crois pas qu'il y en a, à part à toute petite échelle, on en parlait hors antenne, à Saint-Rivoil, je crois qu'il y a un potager géré par les agents de la commune à visée pédagogique d'abord, et puis pour fournir un petit peu la cantine à petit échelon. Je n'ai pas d'autres communes en tête, mais je sais que des réserves foncières existent, ça peut exister un peu partout, les collectivités peuvent acheter du foncier, ou en ayant en tête des gens qui veulent s'installer, ou pour plus tard, pour créer une réserve. Ils peuvent solliciter un droit de préemption pour acheter des terres agricoles.
Il n'y a pas Quimper, il y a Quimper, mais du coup, c'est
la ferme de la Cascade, je crois, c'est ça.
Qui est installé en maraîcher, oui.
Ouais. Donc c'est la terre qui appartient à l'agglomération, là, cette fois, non, c'est ça, ou la commune, je ne sais plus.
Oui, je ne sais plus, en tout cas, l'outil de production a été financé par la collectivité, effectivement, oui.
Qui a fait appel à un maraîcher.
Il est indépendant, je crois. Il n'est pas agent municipal, quoi.
Non, et puis il ne fournit pas spécialement la cantine, mais bon, il y a un travail qui se fait, notamment à l'échelle du quartier de Pénars. Parce qu'il y a ça aussi. C'est bien d'avoir des agriculteurs sur place pour pouvoir rapprocher les citadins de l'agriculture.
Sur ces questions de foncier, il y a vraiment des... là, je renvoie aussi un peu au guide de Terre de Liens qui détaille plein de modes d'action, mais les municipalités peuvent avoir un rôle de réserve, de stockage en fait de foncier pour aider aussi l'accès au foncier, c'est un gros frein à l'installation dans le Finistère, mais un peu partout. Et du coup, c'est vraiment un moyen d'aider aussi les porteurs de projets à pouvoir accéder à du foncier. Des fois, ça peut être transitoire, c'est-à-dire que ça peut les aider ensuite à accéder au foncier plus tard, devenir propriétaire plus tard. Et puis ça peut aussi être de manière plus pérenne où la municipalité reste propriétaire du coup des terres comme Terre de Liens peut être propriétaire, une municipalité peut être propriétaire aussi en garantissant la vocation agricole des terres. Et c'est des leviers qui peuvent être très puissants parce que les SAFER ont des moyens aussi d'action limités.
Pour dire ce que c'est les SAFER.
La SAFER, du coup, c'est l'établissement qui va gérer la régulation des prix agricoles en intervenant sur certaines ventes.
Les prix des terres.
Là, ça fait des terres agricoles.
Ouais, qui permet, enfin, c'est un organisme qui veille à ce que les terres agricoles soient attribuées à des agriculteurs, agricultrices, c'est ça, et pas ailleurs, et puis que ça soit un prix en effet raisonnable, c'est ça.
Ouais,
en
c'est
gros.
Ça. Mais ils ont des moyens d'intervention qui sont en fait beaucoup plus limités que ce qu'on pense, et notamment le fait d'acheter du foncier et de le stocker, ça leur coûte énormément d'argent, et donc ils sont de plus en plus réticents à le faire parce qu'ils ont de moins en moins de moyens, et donc les communes peuvent aussi jouer ce rôle de stockage et de mise à disposition plus ou moins temporaire.
Mmh.
Ça peut donner des idées à certains, certaines.
Oui, c'est ça. Un dernier mot, il nous reste une minute, alors une dernière recommandation encore que vous voudriez souligner, qu'on n'aurait pas évoqué. Est-ce que l'installation, par exemple, l'installation de food truck particulier, ça peut être intéressant pour rejoindre l'idée qu'on avait sur la publicité ? Ah, c'est vrai. Hein.
Bah ouais, pourquoi pas. Ouais.
Et puis les jardins familiaux, je voyais ça. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'agriculture. Enfin, y a aussi tout le rapport des gens avec leur jardin. C'est ça, hein. Oui. Ça peut faire évoluer aussi les mentalités, le regard sur l'agriculture. D'avoir un jardin et comme si et pas comme ça.
Bah oui, c'est toujours bénéfique. Puis c'est vrai que nous aussi, Vam, on cible en grande majorité des paysans de métier, mais c'est vrai que l'agriculture de subsistance, c'est aussi quelque chose qui nous anime et ça contribue aussi à l'alimentation générale. Enfin, beaucoup moins maintenant qu'avant où les gens avaient leur potager, mais c'est quelque chose qui pourrait redevenir les jardins ouvriers. Toutes ces initiatives qui vont dans ce sens-là des communes, c'est super positif, ça c'est sûr.
Ouais. Puis ça donne la mesure de ce que c'est que de travailler la terre pour faire du manger. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci aussi Vam pour ces belles émissions qu'on peut réécouter sur le site internet de Transistor. Et on pourra retrouver le Vam du Finistère dans un mois, le 2 avril. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.